Grand 3. La philosophie de la religion et l'éthique de Feuerbach. Le véritable idéalisme de Feuerbach apparaît dès que nous en arrivons à sa philosophie de la religion et à son éthique. Il ne veut nullement supprimer la religion, il veut la perfectionner. La philosophie elle-même doit se fondre dans la religion. Citation. Les périodes de l'humanité ne se distinguent que par des changements d'ordre religieux. Il n'y a de mouvements historiques profonds que ceux qui vont jusqu'au cœur humain. Le cœur n'est pas une forme de la religion, celle-ci ayant aussi sa place dans le cœur. Il est l'essence de la religion. Ouvrez le crochet, cité par Stark, page 168, fermez le crochet. Fin de citation. La religion est, d'après Feuerbach, le rapport sentimental d'homme à homme qui, jusqu'ici, cherchait sa vérité dans un reflet fantastique de la réalité, dans l'intervention d'un ou de nombreux dieux, reflet fantastique de qualités humaines. Mais la trouve maintenant directement et sans intermédiaire dans l'amour entre toi et moi. Et c'est ainsi que l'amour sexuel devient, en fin de compte, chez Feuerbach, l'une des formes les plus élevées, sinon la plus élevée, de l'exercice de sa nouvelle religion. Mais les rapports sentimentaux entre les hommes, et notamment les rapports entre les deux sexes, ont existé depuis que les hommes existent. L'amour sexuel spécialement s'est développé au cours des 8 derniers siècles et a conquis une place qui en fait, au cours de cette période, le pivot obligatoire de toute poésie. Les religions positives existantes se sont contentées de donner leur consécration suprême à la réglementation par l'État de l'amour sexuel, c'est-à-dire à la législation du mariage. Et elles peuvent disparaître toutes demain sans que la moindre chose soit changée à la pratique de l'amour et de l'amitié. C'est ainsi que la religion chrétienne avait en fait si bien disparu en France de 1793 à 1798 que Napoléon lui-même ne put la réintroduire sans résistance et sans difficulté. Et, dans l'intervalle, nul besoin ne s'est fait sentir d'un équivalent dans le sens de Feuerbach. L'idéalisme consiste ici, chez Feuerbach, à considérer les rapports entre les hommes basé sur une inclination mutuelle telle que l'amour, l'amitié, la pitié, l'abnégation, etc., non pas simplement tels qu'ils sont par eux-mêmes, sans ressouvenir à une religion particulière qui appartient pour lui aussi au passé, mais au contraire, à prétendre qu'ils n'atteignent leur pleine valeur que dès qu'on leur donne une consécration suprême au moyen du nom de religion. L'essentiel pour lui n'est pas que ces rapports purement humains existent, mais qu'ils soient interprétés comme la religion nouvelle, véritable. Ils ne doivent avoir pleine valeur que lorsqu'ils ont reçu le sceau religieux. Religion provient du mot latin religare, lié entre crochets, et signifie primitivement liaison. Par conséquent, toute liaison entre hommes est une religion. Ce sont de pareils tours de passe-passe étymologiques qui constituent le dernier expédient de la philosophie idéaliste. Ce qui doit prévaloir, ce n'est pas ce que le mot signifie d'après le développement historique de son emploi réel, mais ce qu'il devrait signifier d'après son origine étymologique. Et c'est ainsi que l'amour sexuel et l'union sexuelle sont élevés à la hauteur d'une « religion », entre guillemets, afin que le mot « religion », cher au souvenir idéaliste, ne s'avise pas de disparaître de la langue. C'est exactement ainsi que s'exprimaient, au cours de 1840 à 1850, les réformistes parisiens de la tendance Louis Blanc, qui ne pouvaient se représenter un homme sans religion que comme un monstre, et nous disait, ouvrez les guillemets. Donc, l'athéisme, c'est votre religion, fermez les guillemets. Lorsque Feuerbach veut établir la vraie religion sur la base d'une conception essentiellement matérialiste de la nature, cela revient en réalité à considérer la chimie moderne comme étant la véritable alchimie. Si la religion peut se passer de son dieu, l'alchimie peut également se passer de sa pierre philosophale. Il existe d'ailleurs un lien très étroit entre l'alchimie et la religion. La pierre philosophale a un grand nombre de propriétés quasi divines, et les alchimistes gréco-égyptiens des deux premiers siècles de notre ère sont pour quelque chose dans l'élaboration de la doctrine chrétienne, ainsi que le prouvent les données fournies par Kopp et Berthelot. Tout à fait fausse est l'affirmation de Feuerbach que les « périodes de l'humanité ne se distinguent que par des changements d'ordre religieux » De grands tournants historiques n'ont été accompagnés de changements d'ordre religieux que dans la mesure où entrent en ligne de compte les trois grandes religions mondiales, le bouddhisme, le christianisme et l'islamisme. Les anciennes religions de tribus et de nations qui s'étaient constituées d'une façon naturelle n'avaient aucune tendance au prosélytisme et perdaient toute capacité de résistance dès qu'était brisée l'indépendance des tribus et des nations. Chez les Germains, il suffit même pour cela du simple contact avec l'Empire romain en décomposition et avec la religion chrétienne universelle qui venait d'être adoptée par celui-ci comme correspondante à sa situation économique, politique et idéologique. Ce n'est que pour ces trois grandes religions universelles formées d'une façon plus ou moins artificielle, et notamment pour le christianisme et l'islamisme, que nous constatons que des mouvements historiques plus généraux portent une empreinte religieuse. Et même dans le domaine du christianisme, cette empreinte religieuse est limitée, pour des révolutions d'une importance véritablement universelle, aux premières phases de la lutte émancipatrice de la bourgeoisie, entre le XIIIe et le XVe siècle, et ne s'explique pas, comme le croit Feuerbach, par le cœur de l'homme et son besoin de religion, mais par toute l'histoire antérieure du Moyen-Âge qui ne connaissait précisément d'autres formes d'idéologie que la religion et la théologie. Mais, lorsqu'au XVIIIe siècle, la bourgeoisie fut devenue suffisamment forte pour avoir, elle aussi, son idéologie propre, adaptée à son point de vue de classe, elle fit sa grande et décisive révolution, la Révolution française, en faisant exclusivement appel à des idées juridiques et politiques, ne se souciant de la religion que dans la mesure où celle-ci était pour elle un obstacle. Mais elle se garda bien de mettre une nouvelle religion à la place de l'ancienne. On sait comment Robespierre y échoua. La possibilité d'éprouver des sentiments purement humains dans nos rapports avec nos semblables nous est déjà aujourd'hui suffisamment gâtée par la société fondée sur l'antagonisme et sur la domination de classe dans laquelle nous sommes obligés de nous mouvoir. Nous n'avons par conséquent aucune raison de nous la gâter encore davantage en élevant ces sentiments à la hauteur d'une religion. Et, de même, la compréhension des grandes luttes de classes historiques est déjà suffisamment obscurcie par la façon courante d'écrire l'histoire, notamment en Allemagne, sans que nous ayons encore besoin de nous la rendre complètement impossible en transformant cette histoire des luttes en un simple appendice de l'histoire de la religion. Déjà ici, il apparaît à quel point nous nous sommes aujourd'hui éloignés de Feuerbach. Ces plus beaux passages, entre guillemets, consacrés à célébrer cette nouvelle religion d'amour, sont devenus aujourd'hui complètement illisibles. La seule religion que Feuerbach étudie sérieusement est le christianisme, la religion de l'Occident, fondée sur le monothéisme. Il démontre que le Dieu chrétien n'est que l'image fantastique de l'homme. Mais ce Dieu est lui-même le produit d'un long processus d'abstraction. la quintessence d'un grand nombre de dieux antérieurs, de tribus et de nations. Et, de même, l'homme, dont ce dieu n'est qu'une image, n'est pas non plus un homme véritable, mais lui aussi la quintessence d'un grand nombre d'hommes réels, l'homme abstrait, par conséquent lui-même une image idéale. Le même Feuerbach qui prêche à chaque page la sensualité, qui invite à se plonger dans le concret, dans la réalité, devient complètement abstrait dès qu'il en vient à parler d'autre chose que des relations purement sexuelles entre les hommes. Ces relations ne lui offrent qu'un seul aspect, la morale. Et ici, nous sommes à nouveau frappés de la pauvreté étonnante de Feuerbach par rapport à Hegel. L'éthique de Hegel, ou doctrine de la moralité, est la philosophie du droit, et elle comprend, premièrement, le droit abstrait, deuxièmement, la moralité, troisièmement, la morale, qui comprend à son tour la famille, la société civile, l'État. Autant la forme est idéaliste, autant le contenu est ici réaliste. Tout le domaine du droit, de l'économie, de la politique y est englobé, à côté de la morale. Chez Feuerbach, c'est exactement le contraire. Au point de vue de la forme, il est réaliste, il prend pour point de départ l'homme. Mais il ne dit absolument rien du monde dans lequel vit cet homme. Aussi, cet homme reste-t-il donc toujours le même être abstrait qui pérorait dans la philosophie de la religion. C'est que cet homme n'est pas né dans le sein de sa mère. Il est éclos du dieu des religions monothéistes. Aussi, ne vit-il pas dans un monde réel, formé et déterminé historiquement. Il est bien en rapport avec d'autres hommes, mais chacun d'eux est aussi abstrait que lui-même. Dans la philosophie de la religion, nous avions au moins encore des hommes et des femmes. Mais dans l'éthique, cette dernière différence disparaît également. À vrai dire, on rencontre bien à de longs intervalles chez Feuerbach des phrases comme celle-ci, ouvrez les guillemets. Dans un palais, on pense autrement que dans une chaumière, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Si tu n'as rien de substantiel dans le corps, ayant faim et étant dans la misère, tu n'as rien non plus de substantiel dans la tête, dans l'esprit et dans le cœur, pour la morale. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Il faut que la politique devienne notre religion. Fermez les guillemets. Etc. Mais Feuerbach ne sait absolument rien faire de ces phrases. Elles restent chez lui de simples façons de parler. Et Stark lui-même est obligé d'avouer que la politique était pour Feuerbach une frontière infranchissable et que, ouvrez les guillemets, la sociologie était pour lui une terra incognita, fermez les guillemets. Il ne nous apparaît pas moins plat, en comparaison avec Hegel, dans sa façon de traiter l'antinomie du bien et du mal, ouvrez les guillemets. On croit dire une grande vérité, écrit Hegel, lorsqu'on dit « l'homme est naturellement bon ». Mais on oublie que l'on dit une plus grande vérité encore par ces mots « l'homme est naturellement mauvais ». Fermez les guillemets. Chez Hegel, le mal est la forme sous laquelle se présente la force motrice du développement historique. Et à vrai dire, cette phrase a ce double sens que, d'une part, chaque nouveau progrès apparaît nécessairement comme un crime contre quelque chose de sacré, comme une rébellion contre l'ancien état de choses en voie de dépérissement, mais sanctifié par l'habitude, et d'autre part que, depuis l'apparition des antagonismes de classe, ce sont précisément les passions mauvaises des hommes, la convoitise et le désir de domination, qui sont devenus les leviers du développement historique, ce dont l'histoire du féodalisme et de la bourgeoisie, par exemple, n'est qu'une preuve continue. Or, il ne vient pas du tout à l'esprit de Feuerbach d'étudier ce rôle historique du mal moral. L'histoire est, d'une façon générale pour lui, un domaine peu agréable où il n'est pas à son aise. Même sa fameuse déclaration, ouvrez les guillemets, « L'homme primitif issu de la nature n'était qu'un simple être naturel. Ce n'était pas un homme. L'homme est un produit de l'homme, de la culture, de l'histoire. » Fermez les guillemets. Même cette déclaration reste chez lui complètement stérile. C'est pourquoi ce que nous dit Feuerbach de la morale ne peut être qu'extrêmement pauvre. Le penchant au bonheur est inné chez l'homme et doit par conséquent constituer la base de toute morale. Mais le penchant au bonheur est soumis à un double correctif. Premièrement, du fait des conséquences naturelles de nos actes. Le malaise suit l'ivresse, la maladie, l'excès habituel. Deuxièmement, du fait de leurs conséquences sociales. Si nous ne respectons pas le même penchant au bonheur chez les autres, ces derniers se défendent et troublent par là notre propre penchant au bonheur. Il en résulte que, pour satisfaire notre penchant, il faut que nous soyons à même d'apprécier d'une façon juste les conséquences de nos actes, et d'autre part, d'admettre le même droit au penchant correspondant chez autrui. La restriction volontaire rationnelle en ce qui nous concerne nous-mêmes et l'amour, toujours l'amour, dans nos rapports avec les autres constituent par conséquent les règles fondamentales de la morale de Feuerbach dont découlent toutes les autres. Et ni les exposés les plus ingénieux de Feuerbach, ni les plus grands éloges de Starke ne peuvent masquer la pauvreté et la platitude de ces quelques phrases. Le penchant au bonheur n'est satisfait que très exceptionnellement, et jamais à son avantage ou à l'avantage d'autrui, si l'individu s'occupe de sa propre personne. Il exige au contraire des relations avec le monde extérieur, des sources de satisfaction. Par conséquent, de la nourriture, un individu d'un autre sexe, des livres, des conversations, des discussions, de l'activité, des objets de consommation et de travail, etc. La morale de Feuerbach, ou bien suppose que ces moyens et objets de satisfaction sont donnés simplement à chaque homme, ou bien ne lui donne que de bonnes leçons inapplicables. Elle ne vaut par conséquent pas un rouge liard pour ceux à qui ces moyens font défaut. Et c'est ce que Feuerbach lui-même déclare tout sèchement, ouvrez les guillemets, « On pense autrement dans un palais que dans une chaumière. Si tu n'as rien de substantiel dans le corps ayant faim et étant dans la misère, tu n'as rien de substantiel non plus dans la tête, dans l'esprit et dans le cœur pour la morale. » Fermez les guillemets. En est-il autrement du même droit au penchant au bonheur pour autrui? Feuerbach posait cette revendication d'une façon absolue, comme valant pour toutes les époques et dans toutes les circonstances. Mais depuis quand, prévaut-elle? Est-ce que, dans l'Antiquité, il fut jamais question du même droit au penchant au bonheur chez les esclaves et chez les maîtres, et au Moyen-Âge chez les serfs et les barons? Le penchant au bonheur de la classe opprimée n'a-t-il pas toujours été impitoyablement et légalement, entre guillemets, sacrifié à celui de la classe dominante? Oui, dira-t-on, c'était immoral, mais actuellement, l'égalité de droit est reconnue. Reconnue en parole depuis. Et parce que la bourgeoisie s'est vue obligée, dans sa lutte contre la féodalité et au cours du développement de la production capitaliste, d'abolir tous les privilèges de caste, c'est-à-dire tous les privilèges personnels, et d'introduire d'abord l'égalité de l'individu en matière de droit privé, puis, peu à peu, en matière de droit civil et au point de vue juridique. Mais le penchant au bonheur ne vit que dans une mesure insignifiante de droit spirituel et pour la plus grande part de moyens matériels. Or, la production capitaliste veille à ce qu'il ne revienne à la grande majorité des personnes jouissant de l'égalité de droit que le strict nécessaire. Et elle ne respecte par conséquent guère plus, quand elle le respecte, le penchant au bonheur de la majorité que ne le faisait la société esclavagiste ou féodale. Et la situation est-elle meilleure en ce qui concerne les moyens intellectuels du bonheur, les moyens de culture? Le maître d'école de Sadova lui-même n'est-il pas un mythe? Mais ce n'est pas encore tout. D'après la théorie feuerbachienne de la morale, la bourse des valeurs est le temple suprême de la morale, à condition qu'on y spécule toujours d'une façon juste. Si mon penchant au bonheur me conduit à la bourse, et si j'y pèse d'une façon si juste les conséquences de mes actes qu'ils n'entraînent pour moi que des avantages et aucun désagrément, c'est-à-dire si je gagne constamment, la prescription de Feuerbach est remplie. Ce faisant, je ne porte pas non plus atteinte au même penchant au bonheur d'un autre, car cet autre est allé à la bourse aussi volontairement que moi, et, en concluant son affaire de spéculation avec moi, il a suivi tout comme moi son penchant au bonheur. Et s'il perd son argent, son action se révèle précisément par là comme immorale, parce que mal calculée et, en lui appliquant la peine qu'il a méritée, je puis même me vanter d'être un moderne radamante. L'amour règne aussi à la bourse, dans la mesure où il n'est pas seulement une phrase sentimentale, car chacun y trouve dans autrui la satisfaction de son penchant au bonheur. Or, n'est-ce pas ce que doit faire l'amour et sa façon de manifester son activité dans la pratique? Et si je joue avec une exacte prévision des conséquences de mes opérations, par conséquent avec succès, je remplis les exigences les plus strictes de la morale de Feuerbach et je m'enrichis encore par-dessus le marché. En d'autres termes, la morale de Feuerbach est adaptée à la société capitaliste actuelle, si peu qu'il le veuille lui-même ou qu'il s'en doute. Mais l'amour. Oui, l'amour est partout et toujours le dieu enchanteur qui, chez Feuerbach, doit aider à surmonter toutes les difficultés de la vie pratique, et cela dans une société divisée en classes ayant des intérêts diamétralement opposés. Par là, disparaît de la philosophie le dernier vestige de son caractère révolutionnaire, et il ne reste plus que le vieux refrain « Aimez-vous les uns les autres, embrassez-vous sans distinction de sexe et de condition, rêve de réconciliation universelle. » En résumé, il en est de la théorie de la morale de Feuerbach, comme de toutes celles qui l'ont précédée. Elle est adaptée à tous les temps, à tous les peuples, à toutes les conditions, et c'est précisément pour cela qu'elle n'est jamais ni nulle part applicable et qu'elle reste tout aussi impuissante à l'égard du monde réel que l'impératif catégorique de Kant. En réalité, chaque classe et même chaque profession à sa morale propre et la brise là où elle peut le faire impunément. Et l'amour, qui doit tout unir, se manifeste par des guerres, des conflits, des procès, des querelles domestiques, des divorces et l'exploitation la plus grande possible des uns par les autres. Mais comment a-t-il été possible que le formidable stimulant donné par Feuerbach soit resté aussi stérile pour lui-même? Simplement, par le fait que Feuerbach ne put sortir hors du royaume de l'abstraction qu'il haïssait mortellement et trouver le chemin menant à la réalité vivante. Il s'accroche violemment à la nature de l'homme, mais la nature et l'homme restent pour lui de simples mots. Ni de la nature réelle ni de l'homme réel, il ne sait rien nous dire de précis. Mais on ne parvient de l'homme abstrait de Feuerbach aux hommes réels vivants que si on les considère dans leur action dans l'histoire. Et Feuerbach s'y refusait. Et c'est pourquoi l'année 1848, qu'il ne comprit pas, ne signifia pour lui que la rupture définitive avec le monde réel, la retraite dans la solitude. La responsabilité principale en incombe, encore une fois, aux conditions de l'Allemagne de l'époque qui le laissèrent péricliter misérablement. Mais le pas que Feuerbach ne fit point ne pouvait manquer d'être fait. Le culte de l'homme abstrait, qui constituait le centre de la nouvelle religion feuerbachienne, devait nécessairement être remplacé par la science des hommes réels et de leur développement historique. Ce développement ultérieur, du point de vue de Feuerbach, par-dessus Feuerbach lui-même, Marx l'entreprit en 1845 dans la Sainte Famille.